Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. Cette semaine, on aurait pu vous parler du soupçon de délit d'initié géant qui aurait eu lieu cette semaine. Un certain Donald Trump, je ne sais pas si vous voyez, a bombardé toutes les économies capitalistes du monde avec des taxes douanières, en veux-tu, en voilà. Ouh là là, dans un monde qui est pour le libre-échange. Alors quand on dit dans un monde, ce sont surtout ceux qui ont un intérêt à être pour le libre-échange qui sont pour le libre-échange. La majorité de la population s'en fout, mais complètement, et préférerait même que ça ne se passe pas comme ça, qu'il n'y ait pas concurrence de tous contre tous. Eh ben, il a quand même fait flipper tout le monde, et surtout ceux qui vivent du libre-échange à la sauce libérale. Il a fait chuter les bourses, dont l'objet est surtout de faire du pognon avec du pognon. Il continue à jouer les bravaches avec les Chinois, hein, mais pour les autres, ça s'est calmé, oui. Et les bourses, qui sont des entreprises à but très lucratif, oui, les bourses sont des entreprises à but très lucratif, rebondissent après que Trump ait annoncé une pause dans son délire. Et qui a gagné plein d'argent pendant cette semaine? Eh ben, ceux qui ont acheté à découvert, par exemple, avant les annonces de Trump, parce qu'ils savaient qu'il allait faire des annonces. Ceux qui ont acheté au plus bas avant que Trump annonce sa pause. Ceux qui savaient que Trump allait foutre le dawa et arrêter de le foutre. Beaucoup de questions auxquelles nous n'aurons sans doute jamais de réponse. Hein, qui a gagné plein d'argent? Va savoir. En attendant, souvenons-nous que les bourses sont déconnectées de la vie réelle et n'existent que pour produire toujours plus en cumulant du capital et faire de l'argent avec de l'argent. Dans un monde socialiste, les bourses n'existeraient pas. Et c'est tant mieux. On aurait pu vous parler du projet Fin du Monde qui continue son petit bonhomme de chemin. D'après l'Institut Copernicus, qui passe son temps à calculer la température du globe, le mois de mars est le plus chaud depuis que les humains relèvent les températures dont s'occupe l'Institut Copernicus. Le plus chaud en Europe et le deuxième plus chaud dans le monde, à 0,08 degrés près, hein. Il battait le record de 2024. Les températures mondiales sont supérieures de 1,6 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire par rapport à la période qui a commencé à la fin du 18e siècle. La période où les humains ne passaient pas leur temps à produire en masse des marchandises standardisées que la pub nous enjoint à acheter pour combler la vacuité de nos vies. Plus 1,6 degré, ah bah c'est déjà beaucoup. C'était même une limite pour que le dérèglement climatique reste supportable. Un seuil rabâché durant la COP21, vous vous souvenez? Elle a eu lieu en 2015 à Paris et elle a permis de conclure les accords de Paris. Aussi, l'ensemble de la planète et ses habitants devraient être en train de mettre en place des comportements définis dans cet accord. Nos soi-disant représentants devraient lutter bec et ongle contre les libéraux en économie qui veulent continuer à détruire les équilibres vitaux de la planète pour accumuler toujours plus de richesses, comme des vulgaires Adam Smith. Eh bien, croyez-le ou pas, ce n'est pas du tout le cas. En janvier dernier, nous avions rencontré un certain Hervé Kempf du site Reporter. Ça se passait chez Bull, alors qu'il nous rappelait l'état dans lequel les riches mettent la planète. Oui, parce que c'était le titre de la BD adaptée de son bouquin qui datait de 2007. La BD datant, elle, de 2024. C'est « Comment les riches ravagent la planète ». Voilà le titre de la BD qui donne beaucoup d'informations sur la façon dont les riches détruisent l'ensemble des équilibres vitaux nécessaires à l'ensemble des vivants. Alors qu'il nous rappelait donc l'état dans lequel les riches mettent la planète avec leur rivalité ostentatoire et la compétition permanente de tous contre tous, et que nous lui demandions « Mais alors, que faire ?» Il a répondu.
En fait, ce constat, tout le monde est au courant. Enfin, tous les gens un peu sérieux qui font attention sont au courant. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est redire, mais en fait, il est possible de vivre autrement. Que les bêtises de M. Pouyanné, les discours de M. Musk et la vision du monde de M. Trump et celle de M. Arnault. Un des principaux problèmes, on est fataliste et on a l'impression que comme ces gens-là sont les plus puissants, ils vont toujours gagner. En fait, il faut se dire non, on va rompre ce cercle, le cercle infernal de leurs bêtises criminelles. Et une façon de le faire, c'est d'imaginer qu'il est possible de faire autrement. Et en fait, c'est tout à fait possible de faire autrement. Donc c'est ce à quoi on va s'employer. Et c'est pas seulement Juan et moi qui allons le faire, c'est un mouvement assez puissant dans tout le mouvement écolo en ce moment, tout le mouvement écologiste, de réfléchir à comment on imagine un autre monde. Et pour aller vers cet autre monde et se donner la force de renverser les puissants, il faut l'imaginer et avoir confiance dans le fait que c'est possible.
Il y a un certain Serge Latouche qui parle de décoloniser notre imaginaire, mais une fois qu'il est décolonisé, il va falloir quand même agir. C'est-à-dire faire en sorte que ces riches soient d'accord, soit pour être taxés, soit pour nous emmener vers cette société que vous décriviez tout à l'heure.
Ah non, ils vont pas nous emmener. Hein. Non, eux, ils vont lutter contre. Eux, c'est des méchants. Ils vont envoyer, ils le font déjà, les forces de police, ils vont lancer la guerre. C'est carrément des méchants, il faut pas se tromper. Donc déjà agir, c'est être lucide. Après, il faut être, comme le dit le philosophe québécois Alain Deneau, il faut être lucide et gai. Donc lucide à la fois sur tout ce qu'on vient de dire, lucide sur le caractère violent de ces gens-là, et gai, parce que justement, le monde qu'on imagine est quand même beaucoup plus joyeux. Nous, du coup, on a étudié les riches avec Juan Mendes, mais simplement, ils sont ennuyeux. Il n'y a pas de personnage plus ennuyeux que Bernard Arnault, vraiment. Donc voilà, leur monde n'est pas intéressant. Donc il faut être lucide et gai. Après, moi, je ne vais pas vous donner la solution, la méthode magique en 3 minutes, quoi.
Bah, on aurait bien aimé, mais bon, a priori, il l'a pas. Alors, pour réécouter l'ensemble de l'interview, rendez-vous sur le site de Radio Alpa, radioalpa.com, page de l'émission Radico Libre. Oui, c'est dans l'onglet émissions. Et vous trouverez les émissions de février 2025 où Hervé Kempf intervient. Donc, lucide et gai pour agir. À mon sens, compter sur nos soi-disant représentants, c'est déjà manquer de lucidité. Je vous laisse avec ça. Tiens, sans transition, on aurait pu vous parler de Bruno Retailleau, qui est allé se faire voir sur le chantier arrêté de l'A69 entre Toulouse et Castres cette semaine. Un chantier arrêté par le tribunal administratif, parce que l'intérêt général n'est pas du tout à l'ordre du jour pour cette autoroute, et que les destructions qu'elle occasionne ne sont pas compensées par les besoins impératifs des populations. Le ravi de Vendée qui triche à Interville, qui nous sert actuellement de ministre de l'Intérieur, il avait promis de démissionner, il a pas fait. Ce mec n'a aucune parole. Ah bah oui, il triche à Interville. Donc le ravi de Vendée qui triche à Interville était dans le Tarn pour sa campagne à la présidence des Républicains. Bien sûr, il appelle à continuer la construction de la 69 pour désenclaver un territoire où serpente une nationale. Ouais, quand il y a une nationale, est-ce que ça veut dire que c'est enclavé? Je suis pas sûr. Va comprendre. Dans la course à la présidence des Républicains, un certain Laurent Wauquiez qui invite des journalistes à bouffer avec l'argent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 200 balles par personne quand même, a proposé cette semaine de déporter les OQTF les plus dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce qu'il y fait froid. Le sadisme comme solution à tous nos problèmes. À ce moment de l'émission, je pense qu'il est important de rappeler qu'élu n'est pas un métier en démocratie, mais qu'il l'est devenu en démocratie représentative. Comme quoi, il y aurait peut-être comme un adjectif de trop à démocratie représentative. Aussi, je propose qu'on revienne à l'idée démocratique et que ces gens se trouvent un vrai métier, éventuellement qui pourrait servir l'intérêt général, contrairement à l'autoroute A69. On aurait pu vous parler de Alexis Kohler, ou sans transition non plus, qui peut décliner les convocations d'une commission parlementaire parce qu'il travaille pour le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. Et que, tout à coup, la séparation des pouvoirs est bien utile. Quand l'exécutif propose des lois et que le gouvernement fait pression sur les députés pour voter ou non des amendements, bizarrement, la séparation des pouvoirs est bien moins nette. Mais bon, eh bien nous voilà avec Alexis Kohler et l'Élysée. Avec encore un scandale d'État, l'Élysée aurait été au courant de la fraude de Nestlé qui vendait de l'eau traitée comme l'eau du robinet pour de l'eau de source. Mais pour les libéraux en économie, vendre de la pisse d'âne pour un hectare, ça s'appelle une opportunité. Pour les autres, c'est une arnaque, mais pas pour eux. On aurait pu vous parler des mots qui n'ont plus aucun sens. Tiens, par exemple, quand un projet de loi s'appelle « projet de loi de simplification de la vie économique » et qu'il sert surtout à réduire la place des citoyens dans la décision politique, c'est peut-être pas terrible en démocratie. Ah, je suis con, on est en démocratie représentative. Mais finalement, on a préféré continuer à vous parler de pesticides. En mai 2024, le gouvernement, alors de qui déjà? Oui, ça va trop vite. En indiquant qu'il était libéral et de droite, on a peu de chances de se tromper. Donc en mai 2024, le gouvernement de droite et libéral, nous informe sur la stratégie Ecofito 2030. Donc sur la stratégie pour réduire de 50% l'usage des pesticides en 2030 par rapport à 2015-2017. Ah mais ça, c'est le successeur d'un autre plan. Le plan Ecofito 2030 est le dernier avatar d'une fable commencée en 2008. Pourquoi 2008? Eh bien parce que c'est le premier plan Ecofito qui avait pour ambition de réduire de 50% les utilisations de pesticides. Mais j'ai déjà entendu ça quelque part, oui. Et c'était à l'horizon 2018, en 2008. Seulement en 2015, il apparaît clairement que les 50% ne seront pas atteints en 2018. Alors, l'échéance est repoussée à 2025. En 2023, idem. Le plan est révisé. À l'horizon devient 2030. Un rapport parlementaire paru en décembre 2023 indique que les quantités de pesticides utilisées en France correspondent grosso merdo à celles de 2009. Et qu'il faudrait un petit peu accélérer le mouvement pour en faire quelque chose de ce plan Ecophyto qui a coûté près d'un milliard d'euros depuis 2008 sans beaucoup de résultats. Alors début 2024, c'est le début de la révolte chez les productivistes emmenée par la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la coordination rurale. Les agriculteurs qui sont bloqués dans leur modèle et qui doivent produire toujours plus se révoltent. Gabriel Attal, alors chef du gouvernement, avait fait un plateau télé au milieu des bottes de paille et suspendu le plan Ecophyto 2030. Mais voilà qu'en mai 2024, un plan Ecophyto avec pour horizon 2030 voit le jour et qu'il ne déclenche pas l'ire des syndicats productivistes. Alors quoi? C'est d'accord pour réduire l'utilisation des pesticides? Il semble que oui. Surtout que l'unité de mesure a été changée. Oh, cool. On est passé du NODU, je voulais te chercher, au HRI-1. Et ce dernier serait bien mieux pour atteindre l'objectif. Le problème majeur restant l'utilisation de pesticides. Cette gamme de produits chimiques de synthèse visant à tuer. Le suffixe « cide » est toujours là dans les herbicides, les fongicides, les paraticides, les insecticides, pour nous rappeler que c'est mortel. Eh ouais, c'est mortel pour les plantes concurrentes aux cultures qu'on appelle les adventices. C'est mortel pour les champignons, c'est mortel pour les insectes, mortel pour les vers parasites. Et pour nous alors? Eh oui, parce que c'est mortel pour toutes ces bestioles-là et pour toutes ces plantes-là, mais pas que. Le 29 mars 2025 avait lieu une après-midi d'information sur le sujet des pesticides et des conséquences sur les êtres humains, place de la République au Mans, à l'occasion de la 20e édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, qui est organisée entre autres par l'association Génération Future. On vous en a déjà parlé. Et c'est là que nous avons rencontré un certain Thierry Pradier. Ah, j'ai failli le louper. J'ai failli l'appeler Thierry Pradier, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc c'est là que nous avons rencontré Thierry Pradier qui se présente lui-même.
Je suis Thierry Pradier, un militant du collectif Stop OGM Pesticides 72, actuellement coprésident, vice-président de l'association.
Bon, on peut ajouter que Thierry Pradier a été élu chez Les Verts au Conseil régional des Pays de la Loire dans les années 2010. Revenons à Stop OGM Pesticides 72 et à ses fonctions.
Cette association existe depuis longtemps ?
Depuis 1998. Elle a regroupé jusqu'à 21 organisations par le passé.
Ça s'appelle Stop OGM Pesticides 72. Quel est le lien entre les OGM et les pesticides ?
Alors en fait, le lien est assez simple. Les plus grosses multinationales fabricants d'insecticides fabriquent également des OGM. Voilà, vous prenez l'exemple de Bayer, de Monsanto, c'est tout à fait le cas. Et donc en fait, il y a une relation parce que les OGM eux-mêmes sont faits pour être utilisés de telle sorte à ce que l'on puisse les arroser avec du glyphosate et ainsi permettre à ce que les plantes autres que la plante OGM meurent. Et donc en fait, c'est une utilisation assez habile pour faire d'une pierre deux coups, je te vends des insecticides et je te vends des OGM.
Donc le glyphosate, c'est ce qu'on retrouve dans le fameux Roundup, ce qui a été de nouveau autorisé en Europe il y a quelques années, pour 10 ans. Le glyphosate en question n'est pas le seul insecticide qui est associé à des OGM.
C'est l'essentiel de l'utilisation des pesticides avec les OGM, pour des raisons économiques et stratégiques, financières évidentes. Les autres, c'est plus compliqué, il peut y en avoir, notamment lutter contre la pyrale du maïs, où c'est la plante elle-même qui fabrique la molécule, qui normalement est naturelle, hein, qui est issue d'une bactérie, et là qui est fabriquée par la plante elle-même. Mais ça veut dire que la plante produit une quantité d'insecticides qui n'est pas en fait totalement naturelle. Il y a quelques petites modifications, mais globalement c'est cette molécule-là. Et donc en fait, on se retrouve avec des taux absolument faramineux, ce qui est aussi problématique.
En effet, c'est problématique, c'est même dangereux. Hein, gagnant-gagnant, mais à chaque fois c'est l'entreprise de chimie qui est gagnante. Notamment Bayer qui a racheté Monsanto qui produit le Roundup plein de glyphosate. Le glyphosate dont on taira la formule pour éviter que des chimistes en herbe en fassent dans leur chambre. Et puis en même temps elle est compliquée, symbolise le produit qui tue. Qui tue en l'occurrence des plantes. Le mauvais acteur et vrai banquier qui nous sert de péter de la rep avait assuré que le glyphosate ne serait plus utilisé en 2021. Oui, à un moment il avait fait semblant d'être écolo. Et puis il est revenu sur sa promesse, parce que c'est sans doute son projet de faire semblant. Depuis 2015, le CIRC, le Centre International de Recherche sur le Cancer, basé à Lyon, a classé le glyphosate comme cancérogène probable. Mais le business avant tout, et en 2023, le renouvellement de l'autorisation du glyphosate est acté pour 10 ans dans l'Union Européenne, sans que les autorités françaises ne s'y opposent. Alors qu'auparavant, il y avait la décision de le faire. Mais bon, c'était au temps où il était écolo. Retrouvons Thierry Pradier du collectif Stop OGM Pesticides 72 pour en savoir encore un peu plus. Qu'est-ce que vous reprochez aux OGM ?
C'est le mode d'agriculture. La première chose, c'est la captation du vivant. C'est une façon d'empêcher l'agriculteur de faire ce qu'il a toujours fait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire prendre une semence, la planter, la faire pousser, puis collecter dans sa récolte les plus beaux grains et ensuite les sélectionner pour ensuite les réutiliser l'année suivante. Et donc cette captation a uniquement à des fins, on peut le dire, capitalistiques, financières, qui fait que chaque dollar investi au début du XXe siècle par Monsanto, c'est transformé pour, on va dire, assez globalement, être multiplié par 1 million en termes de profit.
Donc capter le vivant, de fait, l'agriculteur ne pourra pas réutiliser les graines qu'il aura récoltées l'année suivante, puisqu'en fait, elles ne pousseront pas.
C'est le principe même. Et en fait, l'agriculteur est ainsi obligé et par contrat, et parce que tout simplement, il va se retrouver en procès, il est obligé de payer chaque année des royalties à la société en question. Donc en fait, c'est une situation et anormale et assez commode pour une entreprise. C'est vouloir le beurre, l'argent du beurre et le lait de la crémière et la crémière avec.
Alors, tous les OGM ne sont pas stériles, et d'autres semences non OGM, appelées hybrides, des graines en gros quoi, hybrides, les semences F1, ont la réputation d'être stériles. Cependant, replanter des récoltes de semences hybrides, les F1 du catalogue, puisqu'il y a tout un catalogue de ce que vous avez le droit de semer ou de ne pas semer quand vous travaillez dans l'agriculture, eh bien les F1 du catalogue ne doivent pas être replantés. Pourquoi ? C'est pas conseillé car les rendements décroissent. De plus, comme le disait Thierry Pradier, les contrats signés par les exploitants agricoles obligent souvent à recommander des semences. Mais il y a pire. Non, mais arrête-toi. Si, il y a pire.
Donc c'est à la fois une captation du vivant, mais aussi une captation des clients qui sont coincés dans leur relation avec le fournisseur.
Ça va même au-delà. C'est aussi imposer un mode d'agriculture, car les meilleurs modes d'agriculture, c'est-à-dire qui sont complètement adaptés au contexte pédo-agricologique, c'est-à-dire localement, ne convient pas. Ça convient sur des surfaces immenses avec des climats assez stables, typiquement les grandes plaines d'Argentine, du Brésil, d'Europe, où là vous allez avoir une plante avec un insecticide, un OGM, et à partir de là, en multipliant les surfaces, vous faites un bénéfice. Mais en réalité, il y a beaucoup de contextes dans le monde où ça ne s'adapte que très mal. Ce n'est pas adapté à une agriculture plurielle. C'est vraiment l'agriculture industrielle par excellence. Et en fait, on en paye le tribut aujourd'hui, à tout point de vue.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire que les populations se retrouvent avec des taux de glyphosate dans la nature et en consommation énorme, je pense à l'Argentine. Les insectes meurent, le taux de produits d'insecticides, de pesticides, d'herbicides augmente considérablement dans l'eau des nappes phréatiques. Donc en fait, à tout point de vue, les populations locales payent le tribut de l'utilisation de ces produits, tant en termes d'OGM qu'en termes d'insecticides. Et donc en fait, c'est un mode de société en réalité qu'on remet en cause. Ça va assez loin. Parce qu'en fait, ça se fait contrairement à l'intérêt public.
Et même à l'intérêt des premiers utilisateurs, il apparaît, et la MSA le dit régulièrement, que les agriculteurs et leurs familles sont les premières victimes, alors non pas des OGM là, mais plutôt des pesticides qui sont utilisés.
Oui, bien sûr, c'est ça. Et quand ils utilisent l'OGM, quand ils utilisent de très grosses quantités de glyphosate, alors je ne pense pas à la France, mais je pense particulièrement à l'Amérique latine, là les doses sont énormes, il n'y a pas de contraintes légales imposées. Donc effectivement, ce sont les premiers touchés, mais les touchés de façon caricatural, oui. On parle des OGM, mais si vous pensez par exemple l'arboriculture, les pommiers, bon, on sait qu'il y a des agriculteurs qui tombent malades. Certaines cultures demandent l'utilisation d'insecticides bien particuliers. Vous prenez l'exemple très connu du chlordécone. La quantité de cancer aujourd'hui reconnue, ceux de la prostate, voire d'autres, hein, cerveau, lymphe, etc., sont aujourd'hui imputables à l'utilisation de ces insecticides pour lesquels on a enfin un certain recul. Mais ce n'est pas le cas de tous.
Et non, pour certains, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore à quel point ça tue, sauf les insectes, etc. C'est donc un modèle d'agriculture qui est à l'œuvre avec les OGM et les pesticides. Donc grands espaces, machines et intrants. Les intrants, bah, c'est les pesticides, les engrais, les OGM. Un modèle qui tue des insectes en masse, des plantes en masse, la biodiversité en masse et même des agriculteurs et au-delà. Le scandale du chlordécone qui fait des ravages dans les colonies françaises des Antilles, en Martinique et Guadeloupe, par sa persistance dans les sols, le chlordécone reste et restera. Après son utilisation durant plus de 20 ans pour produire de la banane française, monsieur. En 2023, après des années de procédure, un non-lieu définitif exonère les donneurs d'ordre. Et pourtant... À ce propos, on lira Les Empoisonneurs de Marie Baello, sorti en 2025, et la BD disponible dans les médiathèques de Le Mans, hein, intitulée Toxique Tropique. En métropole, la presse locale est pleine de cas d'agriculteurs, et notamment d'arboriculteurs ou d'éleveurs, qui demandent à la Mutuelle Sociale Agricole, la MSA, la Sécurité du Monde Agricole, de revoir les indemnisations pour leurs cas. Car il existe un fonds d'indemnisation mis en place par une loi en 2020 pour prendre en compte les victimes professionnelles de pesticides. Mais aussi les familles, ce qui donne une idée de la toxicité des produits en question. 581 dossiers ont été acceptés en 2023, c'est le rapport de ce fonds d'indemnisation qui nous le dit, après les 439 de 2022 et les 242 de 2021. La montée en puissance des demandes montre le besoin et à nouveau, la toxicité des pesticides. Si vous connaissez quelqu'un qui a été exposé aux pesticides... Et qui en souffre, eh bien, fonds avec un S, fonds-indemnisation-pesticides au pluriel, .fr, fonds avec un S, point, je recommence, fonds-indemnisation-pesticides.fr. Alors, pourquoi continuer à utiliser ces pesticides dont on connaît maintenant la toxicité et qui tuent ceux qui les utilisent? Eh bien, Thierry Pradier nous en parle.
La population est donc touchée, mais les pesticides permettent normalement d'obtenir des rendements plus importants pour nourrir les populations. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer?
Déjà, l'insecticide par lui-même ne permet pas une augmentation de rendement. Il évite une baisse de rendement, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire en cas d'attaque ou de maladie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mode d'agriculture favorise la production d'une variété de plantes qui va être utilisée dans des champs et des surfaces absolument gigantesques. Cette monoculture amène une fragilisation de la culture elle-même et impose derrière, pour éviter des pertes de rendement, d'utiliser ces insecticides. Mais l'inconvénient majeur que l'on retrouve aujourd'hui, c'est que la terre elle-même, de point de vue de ses qualités agropédologiques, se voit en difficulté de production. Les rendements ont tendance à baisser. Si vous prenez l'exemple d'une production de blé biologique, vous allez effectivement perdre un peu de rendement. Mais vous plantez, quand vous faites ça, vous faites une rotation. D'une part, vous ne faites pas blé sur blé ou maïs sur blé, puis ensuite maïs sur blé, vous continuez. Vous faites une rotation sur 6 ou 7 ans et vous plantez 7 variétés de blé. Et donc, s'il y en a une qui est attaquée, il y en a toujours une ou deux ou trois qui vont prendre le dessus sur l'autre, ce qui fait que votre récolte, finalement, va se retrouver non pas protégée, mais en moindre difficulté. Il y a une forme de compensation. Et vous vous rendez compte qu'en fait, le principe de l'élaboration de type d'agriculture est assez différent. Le blé biologique va se retrouver à une hauteur d'1,50 m, voire plus. Votre blé moderne, lui, va faire 50 cm. Et vous les reconnaissez, c'est-à-dire que ce sont pratiquement des clones. C'est très différent d'un champ biologique. C'est-à-dire que vous regardez la terre, vous la touchez, vous regardez le champ, vous regardez comment c'est, vous dites, mais mince, c'est pas la même plante. Eh bien si, c'est en fait le type de production agricole, la méthode utilisée qui fait que vous avez effectivement des changements importants. Les rendements sont effectivement un peu plus faibles, mais attention, je prends l'exemple du blé. Quand vous avez des rendements à 150 quintaux, on en parle, c'est pas pour la consommation humaine. Donc déjà, si vous êtes en consommation humaine, vous baissez. Donc en fait, il y a une baisse de rendement, pas partout. Dans le maraîchage, on peut obtenir des rendements plus importants en bio. Mais parce qu'en fait, le contexte agricole, le type de production agricole est très différent. Et en fait, ça devient notre métier.
Eh oui, la monoculture pour produire toujours plus, d'où l'appellation de productiviste pour les agriculteurs en conventionnel dont le but devient de produire le plus possible, d'où la perte de diversité, de biodiversité, dont on sait qu'elle est essentielle pour résister aux maladies. D'ailleurs, c'est la même chose pour les animaux dont nous sommes. Donc ce modèle proposé ne compte pas sur la nature pour résister, mais bien sur la chimie de synthèse. Pas de changement par rapport au 19e siècle, quand les humains, en particulier en Europe, se sont mis à bouleverser les équilibres du vivant pour produire du rendement et surtout du profit. Tiens, l'ère industrielle, je crois qu'on en a déjà parlé. Si chère aux libéraux, elle amena les usines, la standardisation et la production en masse de marchandises que la réclame puis la publicité nous enjoignent d'acheter, mais aussi une agriculture plus efficace. Oh, j'ai mis des gros guillemets là. À coup d'intrants, pesticides et engrais de l'industrie chimique. À coup de mécanisation et de machines qui ont entraîné la destruction des haies et le remembrement. Tiens, des machines sorties des usines, bien sûr. Des décennies de ce traitement sont à l'origine de l'appauvrissement des sols, voire de leur mort. Comme l'affirme Paul Bourguignon, biologiste des sols, en disant que nous produisons des plantes malades sur des sols morts. D'où les 50 cm, hein. Faut pas que ça pousse trop, faut pas que ça pousse trop longtemps. Donc, produire pour produire au lieu de produire pour se nourrir est un autre métier, nous disait Thierry Pradier.
C'est ça qu'il faut comprendre. Ça devient notre métier, une autre conception. Sans doute, quelque part, je pense, plus de fierté pour l'agriculteur lui-même qui n'a plus de questions à se poser sur l'intérêt de produire ainsi.
C'est pour ça qu'on parle maintenant d'agriculture paysanne. Il faudrait ajouter systématiquement des adjectifs pour revenir à quelque chose de plus pérenne.
Il y a l'agribusiness et il y a l'agriculture paysanne et on est dans deux domaines qui n'arrivent même plus à se côtoyer. D'où le fait que le monde agricole est un monde où, entre syndicats, c'est la guerre. Il n'y a pas ça dans les autres professions. Parce qu'il y a des conceptions, des intérêts qui sont très divergents et des conceptions qui sont à l'opposé les unes des autres.
Revenir à un modèle d'agriculture qui intègre les savoirs particuliers liés à une terre particulière, ce qu'on appelait les terroirs. Au lieu de plaquer une production sur une terre en apportant soi-disant le nécessaire à un rendement maximum par le déversement de produits chimiques de synthèse. Ah oui, en effet, c'est un autre métier. Un autre métier défendu par des paysans qui s'assument. Dans le coin, pour une reprise, une installation, l'envie de changer de pratique, on s'adressera à la maison des paysans. C'est rue Audic, près de l'université du Maine, route de Laval. La maison des paysans. En tant que consommateur de nourriture, c'est-à-dire pour tout le monde, on aura intérêt pour soi et ses proches à privilégier les productions locales en bio qu'on pourra trouver dans son association pour le maintien d'une agriculture paysanne préférée, son AMAP, dont on trouvera le contact sur réseau-amap.org. Et puis à la maison des paysans aussi. Donc, ou sinon on trouvera ça sur son marché du coin. Et si vous voulez qu'en plus vos bambins mangent mieux à la cantine, on s'adressera au collectif Les Pieds dans le Plat, qui avait produit cette petite publicité qu'on vous repasse.
Et tes enfants, ils aiment bien la cantine ?
Oh, ils disent que c'est super bon. En plus, c'est bio, local, de saison, cuisiné sur place. Et pour pas plus cher.
T'as bien de la chance.
Mais c'est ta collectivité qui doit se bouger. Ils n'ont qu'à appeler le collectif Les Pieds dans le Plat.
C'est quoi ?
Une association qui accompagne les élus, les parents d'élèves, les citoyens, pour mener la révolution délicieuse dans la restauration collective.
À tous les âges, on a le droit de bien manger. Vous voulez changer le monde par l'assiette ? Soutenez le collectif Les Pieds dans le Plat. Pour votre santé, évitez les pesticides et les aliments ultra transformés. En cas d'inertie, faites bouger votre collectif.
J'adore la fin, franchement. Il a tout à fait raison. Donc collectif les pieds dans le plat toutattaché.org et vous tomberez dessus. Pour contacter l'association OGM Pesticides 72 dont nous avons entendu l'un des militants Thierry Pradier, OGM.pesticides au pluriel 72, OGM.pesticides72@riseup.net. Oh, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, mais heureusement cette émission sera bientôt en écoute et téléchargement sur le site de la radio, radioalpa.com. On n'a pas trop le temps de vous dire quoi que ce soit, mais quand même, on vous propose d'aller faire un petit tour sur sarthe.demosphère.net avec votre navigateur préféré, qui n'a pas besoin d'être obligatoirement rattaché soit à Google, soit à Microsoft, où on apprendra par exemple que le vendredi 18 avril 2025 à 20h à l'Allumette, Thomas Louise chante à l'Allumette, et pour l'Allumette, après 15 ans de scène avec le groupe Un Costard pour deux, Thomas Louise dévoile un nouveau projet solo alliant énergie pop, son électro et verbe à fleur de peau. Eh ben, venez voir, ça sera à 20h vendredi 18 avril 2025. Prix libre, c'est 7 rue de la Marne, l'Allumette. Je vous rappelle que c'est un centre social autogéré où il y a des activités, beaucoup d'activités, des activités. En veux-tu, en voilà. Voilà les nouvelles que vous pourriez trouver sur sarthe.demosphère.net. Et donc, en attendant de se retrouver à l'Allumette ou ailleurs, moi je vous dis tout simplement allez, au revoir. Mm-hmm.